Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre En vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant. Quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, l'implacable roman de Karine Thuil, Les choses humaines. Dans ce 11e roman, Karine Thuil s'inspire de l'affaire d'une jeune femme victime d'un viol sur le campus de l'université de Stanford en 2015 pour interroger la société et son rapport au féminisme, à la culture du viol, au communautarisme. En apparence, le couple Farrell est étincelant. Jean est un journaliste politique ultra présent sur les plateaux télé. Sa femme Claire est une essayiste connue pour ses engagements féministes. Ils ont un fils, Alexandre, qui étudie dans une université californienne. Et puis, les Farrell se séparent. Claire part vivre avec son nouveau compagnon Adam, et c'est alors que le scandale éclate. Alexandre, le fils parfait, aurait abusé de la fille d'Adam, Mila, au cours d'une soirée. Cette dernière dépose une plainte pour viol. Et voici là le début de la chute des Farrell et de l'emballement de la machine médiatico-judiciaire. Le livre, en seconde partie, est une véritable démonstration judiciaire et aborde surtout, à mon sens, la problématique du féminisme d'aujourd'hui avec la question du consentement et de la zone grise. Ce roman, qui a par ailleurs reçu le prix Goncourt des lycéens et le prix Interallié en 2019, a été adapté au cinéma par Yvan Attal, film et livre que je vous conseille vivement. La déflagration extrême, la combustion définitive, c'était le sexe, rien d'autre. Fin de la mystification. Claire Farrell l'avait compris quand, à l'âge de 9 ans, elle avait assisté à la dislocation familiale provoquée par l'attraction irrépressible de sa mère pour un professeur de médecine rencontré à l'occasion d'un congrès. Elle l'avait compris quand, au cours de sa carrière, elle avait vu des personnalités publiques perdre en quelques secondes tout ce qu'elles avaient mis une vie à bâtir, poste, réputation, famille, des constructions sociales dont la stabilité n'avait été acquise qu'au prix d'innombrables années de travail, de concessions mensonges-promesses, la trilogie de la survie conjugale. Elle avait vu les représentants les plus brillants de la classe politique se compromettre durablement, parfois même définitivement, pour une brève aventure, l'expression d'un fantasme, les besoins impérieux du désir sexuel. Tout, tout de suite. Elle-même aurait pu se retrouver au cœur de l'un des plus grands scandales de l'histoire des États-Unis. Elle avait 23 ans à l'époque et effectuait un stage à la Maison Blanche en même temps que Monica Lewinsky, celle qui resterait célèbre pour avoir fait vaciller la carrière du président Bill Clinton. Et si elle ne s'était pas trouvée à la place de la brune voluptueuse que le président surnommait affectueusement « gamine », c'était uniquement parce qu'elle ne correspondait pas au canon esthétique alors en vigueur dans le bureau ovale. Blonde aux cheveux tressés, de taille moyenne, un peu fluette, toujours vêtue de tailleur-pantalon à la coupe masculine, pas son genre. Elle se demandait souvent ce qui se serait passé si le président l'avait choisie elle, la franco-américaine, cérébrale et impulsive, qui n'aimait explorer la vie qu'à travers les livres, au lieu d'élire Monica, la plantureuse brune au sourire carnassier, la petite princesse juive qui avait grandi dans les quartiers huppés de Brentwood et de Beverly Hills. Elle aurait cédé à la force d'attraction du pouvoir, elle serait tombée amoureuse comme une débutante, et c'était elle qui aurait été auditionnée par le procureur spécial Kenneth Starr, acculée à répéter invariablement la même histoire qui alimenterait les dîners en ville du monde entier et les 475 pages d'un rapport qui ferait trembler les turiféraires du pouvoir américain, exciterait les instincts névrotiques d'un peuple appelant sous les coups de l'indignation et de la torpeur à une mobilisation générale, et elle ne serait sans doute jamais devenue l'intellectuelle respectée qui, 10 ans plus tard, rencontrerait ce même Bill Clinton lors d'un souper donné à l'occasion de la parution de ses mémoires et lui demanderait frontalement « Monsieur Clinton, pourquoi vous êtes-vous prêté publiquement à cet humiliant exercice de contrition et avoir protégé votre femme et votre fille sans exprimer la moindre compassion envers Monica Lewinsky dont la vie intime a été saccagée ?» Il avait balayé la question d'un revers de la main en répliquant d'un ton faussement détaché « Mais qui êtes-vous » Il ne se souvenait pas d'elle, ce qui semblait normal après tout, leur rencontre remontée à près de 20 ans, et s'il l'avait croisée dans les couloirs de la Maison Blanche, facilement identifiable avec ses cheveux blonds vénitiens qui lui donnaient une allure pré-raphaélite, il ne lui avait jamais adressé la parole. Un président n'avait aucune raison de s'adresser à une stagiaire à moins d'avoir envie de la baiser. 21 ans plus tôt, en 95, elles étaient trois à avoir franchi les portes de la Maison Blanche à la grâce d'un dossier scolaire exemplaire et de multiples recommandations. La première, Monica Lewinsky, ne resterait donc qu'une météorite propulsée à l'âge de 25 ans dans la galaxie médiatique internationale, avec pour seul fait d'armes une fellation et un jeu érotique accessoirisé d'un cigare. La deuxième, la plus jeune, Uma Abedin, dont la famille d'origine indo-pakistanaise avait créé l'Institut des affaires de la minorité musulmane, avait été affectée au bureau mis à la disposition de Hillary Clinton et était devenue, en une dizaine d'années, sa plus proche collaboratrice. Au mariage de sa protégée avec le représentant démocrate Anthony Weiner, la première dame avait même prononcé ces mots qui disaient toute la charge affective. « Si j'avais eu une deuxième fille, ça aurait été Uma ». Elle l'avait soutenue quand, un an plus tard, le jeune époux diffusait par erreur des photos de lui dans des postures suggestives sur Twitter, torse nu, le sexe moulé dans un caleçon qui ne dissimulait rien de sa turgescence. Elle avait été présente quand le mari volage avait récidivé, entretenant cette fois une correspondance érotique par texto avec une mineure, alors qu'il briguait une investiture démocrate dans la course à la mairie de New York. Qu'il était l'un des jeunes hommes politiques les plus prometteurs. En dépit des avertissements de ceux qui réclamaient l'éloignement de Uma Abedin, invoquant sa toxicité politique, Hillary Clinton, désormais candidate démocrate à la présidence des États-Unis, l'avait gardée à ses côtés. « Bienvenue au club des femmes trompées, mais dignes, des grandes prêtresses du poker face américain. Souriez, vous êtes filmées. » Du trio de stagiaires ambitieuses, la seule qui, jusqu'alors, avait échappé au scandale, c'était elle, Claire Davis Farrell. Fille d'un professeur de droit à Harvard, Dan Davis, et d'une traductrice française de langue anglaise, Marie Coulier. La mythologie familiale racontait que ses parents s'étaient rencontrés devant la Sorbonne et qu'après quelques mois d'une relation à distance, ils s'étaient mariés aux États-Unis, dans la banlieue de Washington, où ils avaient mené une existence tranquille et monotone. Marie avait renoncé à tous ses rêves d'émancipation pour s'occuper de sa fille et devenir ce qu'elle avait toujours redouté d'être, une femme au foyer, dont l'unique obsession était de ne pas oublier sa pilule. Elle avait vécu sa maternité comme une aliénation. Elle n'était pas faite pour ça. Elle n'avait pas connu la révélation de l'instinct maternel. Elle avait même été profondément déprimée à la naissance et, si son mari ne lui avait pas trouvé quelques travaux de traduction, elle aurait fini sa vie sous antidépresseurs. Elle aurait continué à arborer un sourire factice et à affirmer publiquement que sa vie était fantastique, qu'elle était une mère et une épouse comblée, jusqu'au jour où elle se serait pendue dans la cave de leur petit pavillon de Friendship Heights. Au lieu de ça, elle s'était progressivement remise à travailler et 9 ans après la naissance de sa fille, elle avait eu le coup de foudre pour un médecin anglais dont elle avait été la traductrice au cours d'un congrès à Paris. Elle avait quitté son mari et leur fille quasiment du jour au lendemain dans une sorte d'hypnose amoureuse pour s'installer à Londres avec cet inconnu. Mais 8 mois plus tard, pendant lesquels elle n'avait pas vu sa fille plus de 2 fois, l'homme la mettait à la porte de chez lui au motif qu'elle était invivable et hystérique. Fin de l'histoire. Elle avait passé les 30 années suivantes à justifier ce qu'elle appelait un égarement. Elle disait qu'elle était tombée sous la coupe d'un pervers narcissique. La réalité était plus prosaïque et moins romanesque. Elle avait eu une passion sexuelle qui n'avait pas duré. Claire avait vécu aux États-Unis, à Cambridge, avec son père, jusqu'à ce qu'il meure des suites d'un cancer foudroyant. Elle avait 13 ans. Elle était alors rentrée en France auprès de sa mère dans le petit village de montagne où cette dernière avait élu domicile aux alentours de Grenoble. Marie travaillait pour des maisons d'édition françaises à mi-temps et, espérant rattraper le temps perdu et réparer sa faute, s'était consacrée à l'éducation de sa fille avec une dévotion suspecte. Elle lui avait appris plusieurs langues, enseigné la littérature et la philosophie. Sans elle, qui sait si Claire serait devenue cette essayiste reconnue, auteure de 6 ouvrages, dont le 3e, Le pouvoir des femmes, qu'elle avait rédigé à 34 ans, lui avait assuré un succès critique. Après ses études à Normale Sup, Claire avait intégré le département de philosophie de l'Université Columbia à New York. Là-bas, elle avait renoué avec d'anciennes relations de son père, qui l'avait aidée à obtenir ce stage à la Maison Blanche. C'est à Washington, à cette époque-là, qu'elle avait rencontré à l'occasion d'un dîner organisé par des amis communs celui qui allait devenir son mari, le célèbre journaliste politique français Jean Farrell. De 27 ans son aîné, cette vedette de la chaîne publique venait de divorcer et était à l'acmé de sa gloire médiatique. En plus de la grande émission politique dont il était l'animateur et le producteur, il menait une interview à la radio entre 8h et 8h20, 6 millions d'auditeurs chaque matin. Quelques mois plus tard, Claire renonçait à une carrière dans l'administration américaine, rentrait en France et épousait Farrell. Un homme au charisme irrésistible pour la jeune femme ambitieuse qu'elle était alors, dotée en plus d'un sens de la répartie cinglant, et dont les invités politiques disaient « Quand Farrell t'interviewe, tu es comme un oisillon entre les griffes d'un rapace ». Il l'avait propulsée dans un milieu social et intellectuel auquel elle n'aurait pas pu accéder si jeune et sans réseau d'influence personnelle. Il avait été son mari, son mentor, son plus fidèle soutien. Cette forme d'autorité protectrice, renforcée par leur différence d'âge, l'avait longtemps placée dans une position de suggestion, mais à 43 ans, elle était maintenant déterminée à suivre le cours de sa vie selon ses propres règles. Pendant 20 ans, ils avaient réussi à maintenir la connivence intellectuelle et l'estime amicale des vieux couples qui ont choisi de faire converger leurs intérêts autour de leur foyer érigé en rempart contre l'adversité, affirmant qu'ils étaient les meilleurs amis du monde, façon polissée de cacher qu'ils n'avaient plus de rapport sexuel. Ils parlaient pendant des heures de philosophie et de politique, seuls ou au cours de ces dîners qu'ils donnaient fréquemment dans leur grand appartement de l'avenue Georges Mandel. Mais ce qui les avait liés le plus solidement, c'était leur fils, Alexandre. À 21 ans, après des études à l'école polytechnique, il avait intégré à la rentrée de septembre l'université de Stanford en Californie. Ce fut pendant son absence, au début du mois d'octobre 2015, que Claire avait brutalement quitté son mari. « J'ai rencontré quelqu'un ». Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Tiffaine à la technique de m'avoir accompagnée. La semaine prochaine, redécouvrons Art de Yasmina Reza. Je vous souhaite une chaleureuse semaine sur Esprit Occitanie, riche en lectures incroyables et merveilleuses. Et surtout, n'oubliez pas, le livre papier, c'est la liberté.